You're with SBS Radio.
Et tout d'abord, les grands titres de ce dimanche. L'opposition fédérale en Australie rassure qu'il n'y a pas de division au sein du Parti travailliste. Le Premier ministre français poursuit sa visite en Chine. En Turquie, élections présidentielles et législatives ce dimanche. Coupe du Monde et la victoire des Allemands en toute fin de match contre la Suède, 2-1. Tout d'abord, en Australie, Jim Chalmers, le front bencher du Labour, ne croit pas que son collègue Anthony Albanese est en train de faire des déclarations contraires aux autres membres de son parti concernant les engagements avec le monde des affaires. Un discours prononcé par Anthony Albanese vendredi dernier sur un meilleur engagement entre le Labour et le monde des affaires a provoqué quelques débats. Certains commentateurs voient une différente ligne directrice de celle du chef de l'opposition, Bill Shorten. Pour le gouvernement, c'est un challenge pour le poste de leader de l'opposition qui s'annonce. Non, déclare Jim Chalmers, qui était sur Sky News ce matin.
I don't necessarily think that Anthony's interpretation is different from the broader interpretation from Bill and from others. We need to work with as many people as we can, people of goodwill, people who want to grow the economy, people who want to see the right kind of inclusive growth.
You don't see any of these comments on this or on the need to reach out to non-union members. You don't see any of this as Anthony Albanese stoking leadership trouble.
No, I don't, David.
Et voilà, c'est le porte-parole de l'opposition Jim Chalmers. Le Parti libéral de l'Australie-Occidentale, ravi de leur victoire hier à l'élection partielle de la circonscription de Darling Range, Alyssa Hayden est la nouvelle députée du Parti libéral. Cette élection a eu lieu à cause de la démission de Barry Urban, qui aurait menti sur son passé. Ensuite, Colin Yates, une candidate du Labour, a été choisie, mais a dû abandonner la course pour avoir exagéré en ligne ses qualifications d'études tertiaires. Tanya Lawrence, une autre candidate du Labour, a ensuite été choisie, mais la controverse des autres candidats travaillistes a fait basculer l'opinion en faveur des conservateurs hier à l'élection partielle de cette circonscription. Au niveau fédéral, le Labour va s'opposer lors des travaux parlementaires de la semaine prochaine aux propositions du projet de loi du gouvernement sur la réduction des impôts pour les sociétés. Le gouvernement veut réduire ses impôts de 30 à 25%. Les premiers débats auront lieu au Sénat demain, lundi 25 juin. Le Premier ministre voudrait que la loi soit votée d'ici la fin de la semaine, avant la pause d'hiver du Parlement et les élections partielles du 28 juillet prochain. Le gouvernement doit négocier avec le parti One Nation et les autres sénateurs indépendants du Sénat. Écoutez le ministre des Finances, Matthias Cormann.
Well, I mean, our intention is to deal with it this week, and our intention is to secure the necessary support through the Senate in order to legislate those business tax cuts in full.
Et voilà, c'était Matthias Cormann, le ministre des Finances. Le Premier ministre de Vanuatu, Charles Salwai, arrive en Australie ce dimanche pour des rencontres avec le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Le Premier ministre de Vanuatu demandera à l'Australie de financer un projet d'Internet. Ceci une semaine après la signature d'un accord entre l'Australie et les îles Solomon pour une connexion Internet. Cet accord n'a pas été vu d'un bon œil par le Vanuatu qui avait déjà donner une licence à la compagnie Interchange Cable pour connecter les îles Solomon via Port Vila et Fiji à Sydney. Simon Fletcher, le PDG de la compagnie Interchange Cable, s'est prononcé sur les réseaux sociaux, déclarant que l'Australie a bouleversé son projet financé par le secteur privé.
Australian government is sweetening deal to keep Huawei out of the Solomon Islands and consequently souring the business case of our private sector funded Vanuatu to Solomon's cable under construction. Very hard to compete with free cable.
Et voilà, c'était le PDG de la compagnie Interchange Cable. Le président du Zimbabwe a été la cible d'un attentat dans un stade à Bulawayo où il avait pris la parole à un mois des élections présidentielles dans ce pays. Il n'a pas été blessé, il a condamné l'attaque.
Outside Bulawayo, I can assure you, these are my normal enemies. And I mean, the attempts have been so many. This is not the first attempt on my life. It doesn't, to me, it's normal. I've been used to these attempts. So 6 times my office was broken in. A cyanide was put on my home offices to threaten me so many times. So I'll continue.
Et voilà, c'était le président du Zimbabwe. Les élections en Turquie ce dimanche pour les élections présidentielles et législatives. Les derniers meetings ont eu lieu hier et la bataille sera entre Recep Tayyip Erdogan et son principal rival de l'opposition, Muharrem İnce. Reportage Anissa El-Jabri pour Radio France Internationale.
5 mini-meetings enchaînés dans plusieurs quartiers d'Istanbul. Objectif, labourer le terrain de cette ville qui a lancé sa carrière politique. Tayyip Erdogan en a été le maire. La ville ne lui est aujourd'hui plus favorable. Istanbul a voté non au printemps dernier au référendum attribuant des super-pouvoirs au président. La dernière place où il s'exprime est à moitié vide. Peu importe, Erdogan montre les muscles pour ses derniers mots, prolonge son bras de fer verbal avec son principal adversaire, Muharrem İnce.
Monsieur İnce dit avoir réuni 2 millions de personnes à Ankara. J'ai eu les chiffres de la police. Ils étaient 75 000. Monsieur İnce prétend avoir réuni 5 millions de personnes à Istanbul. C'était 280 000. Tout ce qu'ils font, c'est mentir. Et demain, ma nation va lui donner une bonne leçon.
La foule applaudit, mais l'enthousiasme est de courte durée. Les quelques milliers de personnes qui agitaient des drapeaux blancs, bleus, oranges aux couleurs de l'AKP se dispersent à peine le discours fini. Les tireurs d'élite placés sur les toits étaient encore à leur poste.
Anissa El-Jabri pour RFI. 100 000 supporters de l'Union européenne ont manifesté dans le centre de Londres hier pour demander au gouvernement un vote sur les conditions finales du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dont les négociations sont en cours actuellement à Bruxelles. James McGorry est le président de Open Britain.
People are angry. They're angry that the government are making a mess about Brexit. They're angry that new facts have come to light since the referendum, like the £40 billion divorce bill. And they feel that promises made, most infamously about more money for the NHS, are not going to be kept. And that's why you'll see tens of thousands of people, ordinary people from all over the country, from every walk of life, marching on Parliament and asking for a people's vote on the final Brexit deal.
Et voilà, c'était le président de Open Britain. On passe maintenant au reportage de Marina Daras depuis Londres pour RFI.
Pour James Torrance, le leader du parti politique Renew, qui s'oppose au Brexit, le combat est loin d'être fini.
Les Brexiteurs ont fait des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir et tout le monde peut désormais s'en rendre compte. Les prédictions faites lors de la campagne sur l'économie et sur la difficulté à trouver un accord se révèlent être vraies. On peut toujours renverser le Brexit, mais pour l'instant, il faut continuer à se battre.
Sarah et Julie ont 20 ans et ont voté pour la première fois lors du référendum. Et pour elles, le Brexit a changé leur perspective d'avenir.
Quand le Brexit nous a été expliqué, il y avait tellement de possibilités que ça n'avait rien de très concret pour personne. Les gens ont voté à l'aveugle, vraiment. Donc ce serait vraiment important d'avoir la chance de pouvoir voter sur l'accord final, sur une idée concrète de ce que sera le Royaume-Uni post-Brexit.
Surtout parce que l'écart entre le oui et le non n'était pas grand, alors que la question était tellement vague.
Alors que l'incertitude sur les modalités du Brexit persiste, la tension monte pour la Première ministre, qui ne parvient toujours pas à clarifier la position britannique.
Et voilà, c'était Marina Daras pour RFI. Le président américain Donald Trump défend sa politique sur les migrants qui traversent la frontière depuis le Mexique pour arriver aux États-Unis. À Las Vegas, il a fait l'éloge de son gouvernement parlant de cette question d'immigration qui, selon lui, aurait dû avoir été solutionnée depuis longtemps.
Even if they saw weakness, if they see any weakness, they will come by the millions. We have to have strong borders. We're going to have the wall. We're going to have the wall. We've already started it. You know, we've started it in San Diego.
Et voilà, c'était le président américain Donald Trump. L'État fédéral a chargé l'armée de mettre des centres de rétention en place. Le point avec Romain Le Maresquier pour RFI.
C'est la très sérieuse revue Time Magazine qui révèle l'affaire. La revue a mis la main sur un document interne de l'US Navy, la marine américaine, qui va chapeauter la mise en place de ces nouveaux centres de rétention. Ce sont principalement des bases aériennes désaffectées qui devraient être utilisées, le but étant de pouvoir y détenir des dizaines de milliers de migrants supplémentaires à court terme. Ce document est une réponse à la demande de l'administration Trump qui a réclamé la mise à disposition de tout bâtiment pouvant être utilisé pour loger des migrants. Et s'il n'y a pas assez de bâtiments, des temps dites temporaires et austères seront installées sur d'anciennes pistes d'atterrissage. Dans ce document révélé par la revue Time Magazine, l'US Navy envisage de construire un camp pour 47 000 personnes près de San Francisco et un autre pouvant abriter le même nombre de migrants dans le sud de la Californie. D'autres États sont également concernés, l'Arizona ou encore l'Alabama. Pour l'instant, ce document interne n'aurait pas été validé selon le Pentagone, mais dès qu'une demande officielle sera effectuée, il pourra être rapidement mis en œuvre. Des camps qui serviront à la fois à héberger des familles de migrants mais également des mineurs entrés sur le territoire américain non accompagnés. Ils seraient 20 000 à l'heure actuelle, un chiffre qui ne cesse d'augmenter selon la Maison-Blanche.
Et voilà, c'était Romain Le Maresquier pour RFI. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, était hier à Paris, reçu par le président français Emmanuel Macron. Ils ont discuté surtout la question migratoire qui secoue l'Europe. On écoute le président français Emmanuel Macron.
La proposition que nous faisons, c'est de dire nous tenons aux règles de débarquement conformes au droit humanitaire et donc le pays le plus sûr, le plus proche. Et ce que nous proposons, c'est, reprenant justement le format type HCR, que des centres fermés avec des moyens européens soient mis en place dans le pays le plus sûr, le plus proche où le débarquement apparaît et qu'il y ait un financement européen, une organisation européenne pour instruire les dossiers, que les pays européens s'engagent sur les personnes à qui, dans ces centres fermés, on a octroyé l'asile, à répartir ces personnes entre les pays européens, et que de ce centre européen fermé sur le sol le plus proche, et donc le sol de débarquement, il y ait ensuite des équipes qui puissent reconduire vers les pays d'origine les personnes qui n'auraient pas eu le droit d'asile. Voilà, c'est ça la proposition que nous faisons pour les pays de première arrivée.
Voilà le président français. Le premier ministre français, quant à lui, Édouard Philippe, poursuit sa visite en Chine. Hier, il était à Shanghai. Écoutez le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Julien Chavannes.
C'est une montagne de conteneurs en plein cœur du delta du fleuve Yangtze. Le nouveau port de Shanghai se trouve à 2 heures de route du centre-ville. 60% des marchandises de la région transitent désormais par ici. Sur le quai, l'énorme porte-conteneur Théodore Roosevelt, propriété du groupe français CMA-CGC. Édouard Philippe embarque à bord et l'ancien maire du Havre refait surface. Il y a deux sortes de ports, le Havre et les autres. CMA-CGC réalise près $1 milliard de chiffre d'affaires en Chine. C'est cet exemple qu'Édouard Philippe voulait mettre en avant pour rééquilibrer les échanges commerciaux franco-chinois.
On pourrait imaginer que la bonne façon de limiter les déficits commerciaux, ce serait de limiter le commerce. Notre objectif, c'est au contraire de faire en sorte de le rééquilibrer en profitant de cet incroyable marché qu'est aujourd'hui la Chine, qui se développe rapidement et avec lequel nous devons commercer et nous devons être plus forts.
Être plus fort et plus présent, notamment sur les futures routes commerciales de la Chine, les fameuses routes de la soie. Justement, à l'occasion de sa visite, un accord de coopération est signé entre le port de Marseille et celui de Shanghai. Mais le chemin est encore long. La France a 30 milliards d'euros de déficit commercial à rattraper.
Et voilà, c'était Julien Chavannes pour RFI. Direction la Russie maintenant pour parler de la Coupe du Monde et le sentiment que c'est une fête permanente pour les Russes. Sur place, Daniel Valo pour RFI et il nous explique tout ça.
L'ambiance a un tout petit peu retombé depuis le départ des fameux supporters péruviens qui ont mis ici une ambiance absolument incroyable. Mais malgré tout, la fête continue. Le centre-ville est très animé. Toute la ville attend le match entre le Japon et le Sénégal. En attendant, donc, les gens continuent d'aller et venir sur la principale rue piétonne qui se trouve non loin du stade, de célébrer cette fête du foot, de se rencontrer, d'échanger, de parler de football et de plein d'autre chose. C'est vraiment un moment de rencontre. Et cette rue piétonne dans le centre d'Ekaterinbourg, elle est devenue un petit peu le point de ralliement des supporters, un peu comme la rue Nikolskaya à Moscou, avec ses scènes de fêtes et de rencontres. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette fête qui a débuté depuis que le mondial a commencé, c'est que les supporters qui viennent ici en Russie se sont emparés de la rue comme d'un lieu de réunion et de rencontre, alors même qu'en Russie, c'est justement ce que le pouvoir essaye d'éviter de façon assez systématique. La fête n'a pas lieu forcément dans les lieux où la FIFA et le gouvernement russe avaient prévu qu'elle se déroule, c'est-à-dire dans les fan zones. Et cette sortie de route, elle est tolérée par les autorités et cela fait sans doute beaucoup de bien à tout le monde ici, aux supporters étrangers qui trouvent ça un petit peu normal, et surtout aux Russes qui ont l'impression de respirer avec un petit peu plus d'aisance depuis que le mondial a débuté.
Et voilà, c'était Daniel Valeau depuis la Russie. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 21 degrés, Adélaïde 15 degrés, Melbourne 13, Hobart 12, Canberra 13, Sydney 16, Brisbane 23, Cairns 26, Darwin 31 et à Alice Springs maximal de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, l'opposition fédérale en Australie rassure qu'il n'y a pas de division au sein du parti travailliste, le Premier ministre français poursuit sa visite en Chine, Coupe du Monde et la victoire des Allemands en toute fin de match ce matin contre la Suède 2-1. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.